Soir. La police pense que je ne suis qu'une petite fouineuse friande d'histoires sordides. Que je suis une harceleuse, une tarée, une malade mentale. Je n'aurais jamais dû aller au poste. Je n'ai fait qu'empirer ma situation et je ne crois pas avoir été d'une grande aide pour Scott, alors que c'était pour ça que j'y allais. Il a besoin de mon aide, parce qu'il est évident que la police le soupçonne d'avoir fait quelque chose à Megan, et je sais que ce n'est pas vrai, parce que je le connais. Je le sens, même si ça semble dingue. J'ai vu la manière dont il se comporte avec elle. Il ne lui ferait jamais le moindre mal. Bon, d'accord. Ce n'était pas uniquement pour aider Scott que je suis allée au poste. Il y avait cette histoire de mensonge à désamorcer, quand j'ai dit que je travaillais chez Huntingdon Whiteley. Ça m'a pris un temps fou pour trouver le courage d'entrer. J'ai manqué de faire demi-tour et rentrer chez moi une bonne dizaine de fois, mais j'ai fini par me décider. J'ai demandé à l'agent assis à l'accueil si je pouvais parler au capitaine Gaskill, et il m'a indiqué une salle d'attente étouffante où j'ai patienté plus d'une heure avant qu'on vienne me chercher. À ce moment-là, j'étais en sueur et je tremblais comme quelqu'un qui monte à l'échafaud. On m'a emmené dans une autre pièce, encore plus petite et étouffante, sans fenêtre et sans un brin d'air. On m'a laissé seul 10 minutes de plus avant que Gaskill arrive, accompagné d'une femme, elle aussi en civil. Gaskill m'a salué poliment. Il ne semblait pas surpris de me voir. Il m'a présenté l'autre personne, l'inspectrice Riley. Elle est plus jeune que moi, grande et mince, avec des cheveux bruns et jolie avec ses traits bien dessinés qui lui font comme une tête de renard. Elle ne m'a pas rendu mon sourire. Nous nous sommes assis tous les trois et personne ne disait rien. Il se contentait de me regarder en attendant que je commence. « Je me suis souvenue de l'homme, » ai-je dit. « Je vous ai dit que j'avais parlé à un homme à la gare. Je peux vous le décrire. » Riley a levé très légèrement les sourcils et a changé de position sur son siège. Il était de taille moyenne, de corpulence moyenne, avec des cheveux qui tiraient sur le roux. J'ai glissé dans l'escalier et il m'a rattrapé par le bras. Gaskill s'est penché en avant, les coudes sur la table, les mains croisées devant sa bouche. Je crois qu'il portait une chemise bleue. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je me souviens bien d'un homme et je suis quasiment sûre qu'il avait des cheveux roux et, quand j'étais dans le train, je crois qu'il m'a souri, peut-être un sourire méchant. Il me semble qu'il est descendu à Whitney et il a dû me parler. Il est possible que j'ai glissé sur une marche. J'en ai le souvenir, mais je ne suis pas certaine que ce dernier appartienne à la soirée de samedi ou à un autre moment. Au cours de ces dernières années, il y a eu beaucoup de chutes et beaucoup d'escaliers. Je n'ai aucune idée de ce qu'il portait. Les deux policiers n'ont pas eu l'air très convaincus par mon histoire. Riley a secoué imperceptiblement la tête. Gaskill a posé ses mains devant lui, paume vers le haut. D'accord. C'est juste ça que vous êtes venu me dire, Madame Watson ? A-t-il demandé. Il n'y avait pas de trace de colère dans sa voix. Elle était même plutôt encourageante. Je préférerais que Riley s'en aille. Lui, j'arriverai à lui parler, à lui faire confiance. Je ne travaille plus chez Huntingdon Whiteley, ai-je dit. Ah ? Il s'est mieux installé sur sa chaise, soudain intéressé. Je suis partie il y a 3 mois. Ma colocataire, enfin, ma logeuse, je ne lui ai pas dit. Je suis à la recherche d'un nouveau travail. Je ne voulais pas qu'elle soit au courant parce que je savais qu'elle se ferait du souci pour le loyer. J'ai un peu d'argent de côté, j'ai de quoi le payer, mais... Bref, je vous ai menti hier au sujet de mon travail et j'en suis désolée. Riley s'est penchée en avant et m'a adressé un sourire pincé. « Je vois. Vous ne travaillez plus chez Huntingdon Whiteley ? Vous ne travaillez pas, donc. Vous êtes sans emploi. » J'ai acquiescé. « D'accord. Et vous n'êtes pas inscrite au chômage ?
Non.
Et votre colocataire, elle n'a pas remarqué que vous n'alliez plus au travail tous les jours ?
Non, j'y vais. Enfin... Je ne vais pas au bureau, mais je vais à Londres, comme avant, à la même heure et tout, pour qu'elle ne se doute de rien.
Riley a jeté un coup d'œil à Gaskill, qui est resté concentré sur mon visage, un léger froncement de sourcils.
Ça a l'air bizarre, je sais bien. Je n'ai pas fini ma phrase parce que, quand on l'explique à voix haute, ça n'a pas l'air bizarre, non. Ça a l'air dément.
Bien. Donc, vous faites semblant d'aller au travail tous les jours ? M'a demandé Riley.
Elle avait les sourcils froncés, elle aussi, comme si elle s'inquiétait pour moi. Comme si elle pensait que j'étais folle à lier. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas hoché la tête, rien. J'ai gardé le silence.
Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez quitté votre emploi, Madame Watson ?
Ça n'aurait servi à rien de mentir. S'ils n'avaient pas prévu de contacter mon ancien employeur avant aujourd'hui, je pouvais être sûre qu'ils allaient le faire après cette conversation.
On m'a virée.
Vous avez été renvoyée,
a appuyé Riley, une note de satisfaction dans la voix. De toute évidence, c'était la réponse à laquelle elle s'attendait.
Et pour quelle raison ?
J'ai poussé un petit soupir et je me suis adressée à Gaskill.
Est-ce que c'est vraiment important ? Quel intérêt de savoir pourquoi j'ai quitté mon travail ?
Gaskill n'a pas répondu, trop occupé à examiner des notes que Riley avait glissées devant lui sur la table, mais il a secoué très légèrement la tête. Riley a changé de sujet.
Madame Watson, je voudrais vous parler de samedi soir.
J'ai jeté un coup d'œil à Gaskill comme pour dire « Nous avons déjà eu cette discussion », mais il était encore plongé dans ses papiers.
« D'accord », ai-je dit.
Je n'arrêtais pas de lever la main jusqu'à ma tête pour tâter ma blessure. Je n'arrivais pas à m'en empêcher.
« Dites-moi pourquoi vous êtes allé à Blenheim Road samedi soir. Pourquoi vouliez-vous parler à votre ex-mari ?
Je ne pense pas que ça vous regarde. » Et avant qu'elle ait eu le temps d'ajouter autre chose, j'ai repris « Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau ?» Gaskill s'est levé et a quitté la pièce, ce qui n'était pas vraiment ce que j'avais espéré. Riley n'a rien dit, elle a continué de me dévisager, l'ombre d'un sourire sur les lèvres. Incapable de soutenir son regard, j'ai baissé les yeux vers la table, puis j'ai examiné la pièce autour de moi. Je savais que c'était une tactique. Elle gardait le silence pour me mettre si mal à l'aise que je me sentirais obligée de dire quelque chose, même si je n'en avais pas envie.
« Nous avions des choses à régler, » ai-je répondu.
« Des affaires privées. »
C'était beaucoup trop pompeux. J'avais l'air ridicule.
Riley a soupiré. Je me suis mordu la lèvre, décidée à ne rien dire de plus tant que Gaskill ne serait pas revenu dans la pièce. Au moment où il est entré pour poser un verre d'eau trouble devant moi, Riley a pris la parole.
« Des affaires privées ? »
a-t-elle répété.
« Tout à fait. »
Riley et Gaskill ont échangé un regard. Je ne savais pas si c'était de l'irritation ou de l'amusement. Je sentais la sueur s'accumuler sur ma lèvre supérieure. J'ai pris une gorgée d'eau. Elle avait un goût de poussière. Gaskill a trié les papiers devant lui avant de les mettre de côté, comme s'il n'en avait plus besoin ou comme si ce qui y figurait ne l'intéressait pas tant que ça.
Madame Watson, la nouvelle femme de votre ex-mari, Madame Anna Watson, nous a communiqué son inquiétude à votre sujet. Elle nous a confié que vous l'importunez, elle, que vous importunez son mari, que vous venez chez eux à l'improviste, qu'à une occasion...
Gaskill s'est à nouveau penché sur ses notes, mais Riley l'a interrompu.
« Qu'à une occasion, vous êtes entré par effraction chez Monsieur et Madame Watson et que vous avez pris leur bébé, leur nouveau-né. »
Un trou noir s'est ouvert au milieu de la pièce pour m'engloutir.
« Ce n'est pas vrai !» me suis-je écrié. « Je n'ai pas pris... Ça ne s'est pas passé comme ça, c'est faux! Je ne l'ai pas prise !»
Mes nerfs ont lâché à ce moment-là. Je me suis mise à trembler et à pleurer, et j'ai dit que je voulais partir. Riley a repoussé sa chaise pour se lever. Elle a haussé les épaules, à l'intention de Gaskill, puis elle a quitté la pièce. Gaskill m'a tendu un mouchoir.
« Vous pouvez partir quand vous voulez, Madame Watson. C'est vous qui êtes venue nous voir. »
Il m'a souri, un sourire désolé. Je l'ai beaucoup aimé à cet instant. J'ai eu envie de lui prendre la main pour la serrer, mais je me suis retenue parce que ça aurait été bizarre.
« Je pense que vous avez encore des choses à me dire », a-t-il ajouté.
Et je l'ai aimé encore plus, parce qu'il m'a dit « me » et pas « nous ».
Il s'est levé et m'a accompagnée jusqu'à la porte.
Vous devriez peut-être faire une pause. Vous dégourdir les jambes. Allez-vous prendre quelque chose à manger? Quand vous serez prête, vous pourrez revenir tout me raconter.
Je comptais laisser tomber et rentrer chez moi. En marchant vers la gare, j'étais prête à tourner le dos à toute cette histoire. Puis j'ai repensé à ce trajet en train chaque jour, à ces allers et retours sur cette ligne qui s'arrête devant leur maison, la maison de Megan et Scott. Et s'ils ne la retrouvaient jamais? Je passerai le restant de ma vie à me demander, et je sais que ce n'est pas très probable, mais quand même, si j'aurais pu l'aider en racontant ce que je savais. Et si Scott était accusé de lui avoir fait du mal parce que la police ne découvrirait jamais l'existence de A? Et si elle était en ce moment même chez A, ligotée à la cave, blessée, ensanglantée ou même enterrée au fond du jardin? J'ai fait ce qu'avait proposé Gaskill. J'ai acheté un sandwich jambon fromage et une bouteille d'eau dans une épicerie, et je suis allée jusqu'au seul parc de Whitney, un misérable petit bout de terrain entouré de maisons des années 30 et presque exclusivement constitué d'une aire de jeu sur un sol bétonné. Je me suis installée sur un banc au bord pour regarder les mères et les nounous gronder leurs protégés quand ils mettaient du sable dans leur bouche. Il y a quelques années, c'était mon rêve de venir ici. Pas pour avaler un sandwich jambon-fromage entre deux interrogatoires de police, évidemment. Je rêvais de venir avec mon bébé. Je pensais à la poussette que j'achèterais, aux heures que je passerais chez Baby Gap ou Toys R Us à examiner les vêtements minuscules si mignons et les jouets d'éveil. Je songeais au jour où je viendrais m'asseoir là, mon heureux événement sur les genoux. Mais ce jour n'est pas venu. Aucun docteur n'a su m'expliquer pourquoi je ne peux pas tomber enceinte. Je suis jeune, en bonne santé, et je ne buvais pas tant que ça à l'époque où on essayait. Le sperme de mon mari était dynamique et abondant. Mais ça n'est pas venu. Je n'ai pas subi la douleur d'une fausse couche. Je ne suis juste pas tombée enceinte. Nous avons fait une tentative de FIV, une seule, car nous n'avions pas les moyens de recommencer. Comme tout le monde nous en avait averti, c'était une expérience pénible, et ça a échoué. Mais personne ne m'avait dit que ça nous briserait. Et pourtant. Ou plutôt, ça m'a brisée, moi. Et en retour, je nous ai brisés. Quand on est stérile, on n'a jamais le loisir de l'oublier. Pas quand on atteint la trentaine. Mes amis avaient des enfants. Des amis d'amis avaient des enfants. J'étais constamment assaillie de grossesse, de naissance et de fête de premier anniversaire. On m'en parlait en permanence. Alors quand est-ce que ça allait être enfin mon tour? Au bout d'un moment, notre impossibilité d'avoir des enfants est devenue un sujet normal à aborder, à table, le dimanche midi. Et pas juste entre Tom et moi, mais de manière générale. Ce qu'on essayait, ce qu'on devrait faire, est-ce que je pensais vraiment que c'était une bonne idée de reprendre un verre de vin? J'étais encore jeune, j'avais encore du temps devant moi, mais l'échec m'a enveloppée comme un linceul. Il m'a submergée, m'a entraînée vers les profondeurs, et j'ai fini par abandonner tout espoir. Je me suis mise à en vouloir à ces gens qui semblaient estimer que c'était ma faute, que c'était moi qui faillissais à mon devoir. Mais, comme l'a montré la vitesse à laquelle Tom est parvenu à mettre Anna enceinte, il n'y a jamais eu de souci du côté de sa virilité à lui. J'avais tort de suggérer que nous étions tous les deux responsables. C'était moi, le problème. Ma meilleure amie depuis l'université, Lara, a eu deux enfants en l'espace de 2 ans. D'abord un garçon, puis une fille. Je ne les aimais pas. Je ne voulais pas entendre parler d'eux. Je ne voulais pas être dans la même pièce qu'eux. Au bout d'un moment, Lara a cessé de me parler. Au travail, une collègue m'a raconté, nonchalamment, comme si elle parlait de se faire enlever l'appendice ou les dents de sagesse, qu'elle avait avorté récemment, un avortement médicamenteux, et que c'était bien moins traumatisant que l'avortement chirurgical qu'elle avait subi quand elle était à la fac. Après cela, je ne pouvais plus lui adresser la parole. J'arrivais à peine à la regarder. L'atmosphère s'est tendue au bureau. Les gens s'en sont rendus compte. Tom ne l'a pas vécu de la même manière. Ce n'était pas de son fait. Et, de toute façon, il n'avait pas le même besoin d'enfant que moi. Il voulait être père, oui. Je suis sûre qu'il rêvassait parfois à l'idée de jouer au ballon avec son fils dans le jardin, ou de porter sa fille sur ses épaules en se promenant dans le parc. Mais il pensait que notre vie serait formidable même sans enfants. « On est heureux », me disait-il souvent. « Pourquoi ne pourrait-on pas continuer à être heureux, tout simplement ?» Il a commencé à m'en vouloir. Il n'a jamais compris comment je pouvais ressentir à ce point le manque de quelque chose que je n'avais jamais eu. Dans mon malheur, je me suis sentie très seule. Je me suis isolée. Alors j'ai bu, un peu, puis un peu plus. Et ça m'a rendue plus solitaire encore, parce que personne n'aime passer du temps avec une soularde. J'ai bu et j'ai perdu. J'ai perdu et j'ai bu. J'aimais mon travail, mais je n'avais pas non plus un métier passionnant, et même si ça avait été le cas. Soyons francs. Encore aujourd'hui, la valeur d'une femme se mesure à deux choses. Sa beauté ou son rôle de mère. Je ne suis pas belle et je ne peux pas avoir d'enfant. Je ne vaux rien. Je ne peux pas dire que mes problèmes d'alcool ne viennent que de tout cela. Je ne peux pas les mettre sur le compte de mes parents ou de mon enfance, d'un oncle pédophile ou d'une terrible tragédie. C'est ma faute. Je buvais déjà de toute façon. J'ai toujours aimé boire. Mais je suis devenue plus triste. Et la tristesse, au bout d'un moment, c'est ennuyeux. Pour la personne qui est triste et pour tous ceux qui l'entourent. Puis, je suis passée de quelqu'un qui aime boire à alcoolique. Et il n'y a rien de plus ennuyeux que ça. Ça va mieux maintenant, question enfant, depuis que je suis seule. J'ai bien été obligée. J'ai lu des livres et des articles, et j'ai compris que je devais l'accepter pour avancer. Il y a des solutions, il y a de l'espoir. Si je me reprenais en main et si j'arrêtais de boire, je pourrais peut-être adopter. Et j'ai à peine 34 ans, ce n'est pas encore la fin. Je vais mieux qu'il y a quelques années, quand il pouvait m'arriver de partir du supermarché en abandonnant mon chariot dans les rayons s'il y avait trop de mamans avec leurs enfants. Je n'aurais jamais pu venir dans un parc comme celui-ci, m'asseoir près du terrain de jeu et regarder des bambins potelés descendre le toboggan. Il y a eu des fois, quand j'étais au plus bas, quand l'envie me dévorait pire que jamais, où j'ai cru que j'allais perdre la tête. Et c'est peut-être ce qui s'est passé, un temps. La fois dont ils m'ont parlé, au poste, j'étais peut-être bien folle ce jour-là. C'est quelque chose que Tom a dit qui m'a fait basculer dans une spirale infernale. Quelque chose qu'il a écrit d'ailleurs. Je l'ai lu sur Facebook ce matin-là. Ce n'était pas un choc. Je savais qu'elle allait avoir un bébé. Il me l'avait dit, et je l'avais vue, elle. Et j'avais aperçu le fameux rideau rose dans la chambre d'amis. Alors je savais que ce jour viendrait. Mais j'avais toujours imaginé ce bébé comme son bébé à elle. Jusqu'au jour où j'ai vu cette photo de lui qui tenait sa fille dans les bras et qui la dévorait des yeux en souriant. Sous la photo, il avait écrit « Alors, c'est pour ça que vous en faites toute une histoire. Je ne pensais pas être capable d'aimer autant. C'est le plus beau jour de ma vie. » Je l'ai imaginé écrire ces mots, conscient que j'allais voir ces lignes et qu'elles m'achèveraient, et les écrire tout de même. Ils s'en fichaient. Les parents se fichent de tout, à part de leurs enfants. Ceux-ci sont pour eux le centre du monde, la seule chose qui compte vraiment. Plus personne d'autre n'a d'importance, ni la souffrance, ni le bonheur des autres. Plus rien n'est réel. J'étais en colère, désespérée. Peut-être que j'ai voulu me venger, peut-être que j'ai voulu leur montrer que mon désespoir était réel. Je ne sais pas. J'ai fait quelque chose de stupide. 2 heures plus tard, je suis revenue au poste. J'ai demandé à parler à Gaskill seul. Mais il a dit qu'il voulait que Riley soit présente. Je l'ai aimé un peu moins après ça. Je ne suis pas entrée par effraction, ai-je dit. J'y suis allée, c'est vrai. Je voulais parler à Tom. Personne n'a répondu quand j'ai sonné. « Alors, comment êtes-vous entrée ?» m'a demandé Riley. La porte était ouverte. La porte d'entrée était ouverte. J'ai soupiré. « Non, bien sûr que non. La porte de derrière. La porte coulissante qui mène au jardin. Et comment êtes-vous entrée dans le jardin ?»«
Je suis passée par-dessus la barrière, je savais que... »«
Alors vous êtes passée par-dessus la barrière pour accéder à la maison de votre ex-mari ?»«
Oui, on avait... » Avant, il y avait toujours un double de la clé caché derrière la maison, au cas où l'un de nous oublierait la sienne.
Mais je ne voulais pas entrer par effraction, je vous assure. Je voulais juste parler à Tom. J'ai cru que la sonnette ne marchait pas, peut-être.
C'était en plein milieu de la journée, un jour de semaine, non? Pourquoi croyez-vous que votre ex-mari serait chez lui?
Est-ce que vous aviez téléphoné avant?
A demandé Riley.
Mais bon Dieu, vous allez me laisser finir, oui?
Me suis-je écrié. Elle a secoué la tête et repris le même sourire qu'avant, comme si elle me connaissait, comme si elle pouvait lire en moi.
Je suis passée par-dessus la barrière, ai-je repris en tâchant de calmer ma voix. J'ai frappé à la porte vitrée qui était entr'ouverte. Personne n'a répondu. J'ai passé la tête à l'intérieur et j'ai appelé Tom. Encore une fois, personne n'a répondu, mais j'ai entendu un bébé pleurer. Je suis entrée et j'ai vu Anna.
Madame Watson?
Oui, j'ai vu Madame Watson endormie sur le canapé. Le bébé était dans sa nacelle. Elle pleurait, elle hurlait même. Elle était toute rouge. De toute évidence, ça faisait un bon moment qu'elle pleurait.
En prononçant ces mots, je me rends compte que j'aurais dû leur dire que j'entendais le bébé pleurer depuis la rue et que c'était pour ça que j'avais fait le tour de la maison. J'aurais eu l'air moins folle.
Alors, le bébé est en train de crier, sa mère est juste à côté, mais elle ne se réveille pas,
demande Riley.
Oui.
Elle a les coudes sur la table, ses mains devant la bouche, et je n'arrive pas à bien voir son expression, mais je sais qu'elle pense que je mens.
Je l'ai prise dans mes bras pour la réconforter, c'est tout. Je l'ai prise pour la calmer.
Sauf que ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Parce que quand Anna s'est réveillée, vous n'étiez plus là, n'est-ce pas? Vous étiez au niveau du grillage, près de la voie ferrée.
Elle ne s'est pas arrêtée de pleurer tout de suite, ai-je répondu. Je l'ai bercée, mais elle continuait de geindre, alors je suis allée marcher dehors avec elle.
Près de la voie ferrée?
Dans le jardin.
Est-ce que vous aviez l'intention de faire du mal à l'enfant des Watson?
Je me suis levée d'un bond. Oui, je sais, c'était un peu théâtral comme geste. Mais je voulais qu'il voie, que Gaskill voie, que j'étais scandalisée par cette suggestion.
Je ne suis pas venue pour entendre ce genre de choses, mais pour vous parler de l'autre homme, pour vous aider. Et maintenant, de quoi est-ce que vous m'accusez exactement? De quoi?
Gaskill est resté impassible, peu impressionné par mes cris. Il m'a fait signe de me rasseoir et a pris la relève.
Madame Watson. L'autre, Madame Watson, Anna, a mentionné votre nom au cours de notre enquête sur Megan Hipwell. Elle a dit que vous aviez déjà agi de manière imprévisible, voire instable, par le passé. Elle a mentionné cet incident avec son enfant. Elle nous a dit que vous les harceliez tous les deux, son mari et elle, et que vous continuiez d'appeler chez eux régulièrement.
Il s'est penché un instant sur ses notes.
Presque chaque soir, d'ailleurs. Que vous refusiez d'accepter la fin de votre relation.
C'est complètement faux,
ai-je insisté. Et là, j'étais honnête. Oui, j'appelais encore Tom de temps en temps. Mais pas chaque soir, c'était très exagéré. Mais je commençais à me dire que Gaskill n'était peut-être pas de mon côté après tout. Et j'ai senti les larmes me monter aux yeux.
Pourquoi n'avez-vous pas changé de nom?
M'a alors demandé Riley.
Pardon? Vous portez toujours le nom de famille de votre mari. Pourquoi?
Si un homme me quittait pour une autre femme, je crois que je voudrais me débarrasser de son nom. Je n'aurais aucune envie de le partager avec ma remplaçante.
Eh bien, je suis peut-être au-dessus de ça, moi.
Ce qui est faux. Je déteste qu'elle s'appelle Anna Watson.
Bien sûr. Et la bague? Celle que vous avez autour du cou, au bout d'une chaîne? Est-ce que c'est votre alliance?
Non, ai-je menti. C'est... Elle appartenait à ma grand-mère.
Ah oui? D'accord.
Bon, je dois vous dire que, en ce qui me concerne, votre comportement tend à suggérer que, comme l'a sous-entendu Madame Watson, vous refusez de passer à autre chose et d'accepter que votre ex a une nouvelle famille.
Je ne vois pas
ce que ça a à voir avec Megan Hipwell,
a complété Riley.
Eh bien voilà. Le soir de la disparition de Megan, vous avez été aperçu par plusieurs témoins dans la rue où elle habite. Vous, une femme instable qui boit trop. Si on garde à l'esprit qu'il y a une ressemblance physique entre Megan et Madame Watson, elle ne se ressemble absolument pas.
Cette suggestion m'a mise hors de moi. Jess n'a rien à voir avec Anna. Megan
n'a rien à voir avec Anna.
Elles sont toutes les deux blondes, minces, petites, très pâles de peau.
Alors quoi? J'aurais attaqué Megan Hipwell en croyant que c'était Anna?
C'est l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue, ai-je craché.
Mais je sens la bosse sur ma tête me lancer à nouveau, et la soirée de samedi reste un noir complet.
« Est-ce que vous saviez qu'Anna Watson connaissait Megan Hipwell ?» m'a demandé Gaskill.
Et j'en suis restée bouche bée.
« Je... quoi ? Non, elles ne se connaissent pas. »
Riley a souri un instant avant de reprendre son sérieux.
« Et pourtant si, Megan a été la nounou des Watson en... »
Elle jette un coup d'œil à ses notes.
« En août et septembre de l'année dernière. »
Je ne sais pas quoi dire. Je n'arrive pas à l'imaginer. Megan, dans ma maison, avec elle, avec son bébé.
« La coupure que vous avez à la lèvre, est-ce que ça date de votre accident de l'autre jour ?» a dit Gaskill.
« Oui, je me suis mordu en tombant, je crois. »«
Et ça s'est produit où, cet accident ?»«
À Londres, Thibault's Road, près du quartier de Holborn. »«
Et pourquoi étiez-vous là-bas ?»«
Pardon ?»«
Que faisiez-vous en plein centre de Londres ?»
J'ai haussé les épaules.
« Je vous l'ai déjà dit, ai-je répondu froidement. Ma colocataire ignore que j'ai perdu mon emploi. Alors je vais à Londres, comme d'habitude, et je passe la journée à la bibliothèque à chercher du travail et à réécrire mon CV. »
Riley a secoué la tête, peut-être incrédule ou songeuse. Comment peut-on tomber aussi bas? J'ai repoussé ma chaise pour me préparer à partir. J'en avais assez qu'on me parle ainsi, qu'on me fasse passer pour une imbécile ou une folle. Il était temps de jouer mon joker.
Je ne sais vraiment pas pourquoi nous parlons de tout ça, ai-je déclaré. Je pensais que vous auriez mieux à faire, comme d'enquêter sur la disparition de Megan Hipwell, par exemple. J'imagine que vous avez déjà interrogé son amant.
Aucun des deux n'a répondu. Ils se sont contentés de me dévisager. Ils ne s'y attendaient pas à celle-là. Ils ne savaient pas pour A.
Vous n'étiez peut-être pas au courant, mais Megan Hipwell avait une liaison.
Je me suis dirigée vers la porte, mais Gaskill m'a arrêtée. Il s'était déplacé sans un bruit et à une vitesse étonnante, et avant même que j'ai pu poser la main sur la poignée, il se tenait devant moi.
« Je croyais que vous ne connaissiez pas Megan Hipwell. »
« Et c'est vrai ?» J'ai essayé de le contourner, mais il m'a bloqué le passage.
« Asseyez-vous, » m'a-t-il intimé.
Je leur ai dit ce dont j'avais été témoin depuis le train. Que je voyais souvent Megan profiter du soleil de la fin de journée ou prendre son café le matin sur son balcon. Je leur ai dit que, la semaine dernière, je l'avais vue avec quelqu'un qui n'était de toute évidence pas son mari et que je les avais vus s'embrasser sur la pelouse.
« Et quand était-ce ? » m'a demandé Gaskill, agacé.
Il semblait m'en vouloir. Peut-être parce que c'était par ça que j'aurais dû commencer, au lieu de gaspiller leur journée à parler de moi.
Vendredi. C'était vendredi matin.
Alors, la veille de sa disparition, vous l'avez vue avec un autre homme ?
A répété Riley, exaspérée. Elle a refermé le dossier devant elle. Gaskill s'est laissé aller contre le dossier de sa chaise en m'étudiant du regard. Elle pensait clairement que j'avais tout inventé, mais lui n'en était pas si sûr.
« Vous pouvez le décrire ?» a demandé Gaskill.
« Grand, brun,
ténébreux ?»
a interrompu Riley. J'ai gonflé les joues et j'ai soufflé. « Plus grand que Scott Hipwell ?» Je le sais parce que je les ai déjà vus ensemble. Jess et... pardon, Megan et Scott Hipwell. Cet homme-là était différent. Plus menu, plus mince et la peau un peu plus sombre. Il devait être asiatique.
« Vous étiez capable de déterminer son appartenance raciale depuis le train ?» a commenté Riley. « Impressionnant. Au fait, qui est Jess ?»«
Pardon ?»«
À l'instant, vous avez parlé d'une Jess. »
J'ai senti le rouge me monter à nouveau aux joues et j'ai secoué la tête.
« Non, je ne crois pas. »
Gaskill s'est levé.
« Je crois que ça suffit. »
Je lui ai serré la main. J'ai ignoré Riley et je me suis apprêtée à partir.
N'allez plus du côté de Blenheim Road, Madame Watson, m'a alors averti Gaskill. N'essayez pas de rentrer en contact avec votre ex-mari, sauf urgence. Et ne vous approchez ni d'Anna Watson, ni de son enfant.
Dans le train, sur le chemin du retour, alors que je dissèque tout ce qui est allé de travers au cours de cette journée, je me rends compte avec surprise que je ne me sens pas aussi mal que je l'aurais cru. En y réfléchissant, je sais à quoi c'est dû. Je n'ai rien bu hier, et je n'ai toujours pas envie de boire ce soir. Pour la première fois depuis bien longtemps, je m'intéresse à autre chose qu'à mon propre malheur. J'ai un but, ou en tout cas, une distraction.